Bonsoir. Clôture le week-end dernier du 8e congrès électif de l'Union nationale de la presse congolaise. Le nouveau comité de l'UNPC s'est assigné trois priorités, à savoir assainir le milieu professionnel, lutter pour la dépénalisation des délits de presse et viabiliser les organes de presse. Quelle lecture faire de ces priorités? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois comme invité Joseph Boukar Kasonga Chilundé, président national de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Monsieur Chilundé, bonsoir.
Bonsoir.
Tiviste Tivoadi, secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger, GED. Monsieur Tivoadi, bonsoir.
Bonsoir, Marie.
Professeur Malembe Tamandiak, initiateur, recteur honoraire et docteur honoris causa de l'IFASIC. Il est professeur émérite de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Malembe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les journalistes congolais appellent à la multiplication des ateliers de renforcement des capacités sur le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Cette recommandation et tant d'autres d'ailleurs ont été formulées à l'issue du 8e congrès électif de l'Union nationale de la presse du Congo, dont les travaux ont été tenus du 19 au 21 juillet dernier à Kinshasa. Mimi Ngumba Mulongo.
Les recommandations de l'UNPC sont de trois ordres. D'abord, à l'endroit de congressistes. Ces derniers sont appelés à une cotisation annuelle obligatoire fixée à 20 000 francs congolais. Aussi, il leur est recommandé d'élargir la commission des cartes au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Enfin, il est demandé aux congressistes d'avoir les sens de responsabilité et le respect des règles d'éthique et de déontologie. Deuxième recommandation, aux organes de presse. Ils sont invités à se conformer aux dispositions légales quant à leur fonctionnement. Troisième recommandation faite au gouvernement cette fois-ci, les congressistes rappellent l'accord portant soutien de la production de l'information à faible coût. L'exécutif national est également appelé à ressusciter l'industrie du papier pour répondre aux besoins immenses des médias. Toujours à l'égard du gouvernement, l'UNPC plaide en outre pour la révisitation du nombre des taxes imposées aux médias, sans oublier le taux élevé des redevances audiovisuelles.
Joseph Boukar Kasonga Chilundé, vous êtes président national de l'Union nationale de la presse congolaise. De façon générale, pour commencer, comment s'est déroulé le congrès?
Le congrès s'est déroulé dans une ambiance de confraternité. Tous les participants ont été animés de toute la bonne volonté de réussir ces assises. Lorsque nous considérons que jusqu'à présent, nous avons fait plus de 4 ans prévus de mandat, et c'est ainsi que les participants venus de tous les coins de la République se sont penchés sur les problèmes qui minent notre profession, plus particulièrement sur les problèmes de la carte, la situation sociale des journalistes, ainsi que la viabilité économique des organes de presse, parce que vous savez que le journaliste ne peut être mieux payé que lorsque l'organe qu'il emploie est en mesure d'engranger beaucoup de moyens pour son fonctionnement et surtout pour les salaires. Alors, nous avons échangé à ce niveau et le Congrès a demandé à ce que nous puissions approfondir l'échange afin que nous puissions trouver des pistes de solutions et chercher des partenaires qui peuvent nous permettre de trouver ces moyens et surtout d'améliorer les conditions qu'il faut pour les journalistes congolais.
Alors, vous parlez de la situation sociale des journalistes, de la viabilité économique des organes de presse. C'est des questions qui ont été abordées à ce congrès. Quel état des lieux pouvez-vous dresser à ce jour de la profession journalistique en RDC?
À ce jour, je peux vous dire que les organes de presse et par voie de conséquence les journalistes vivent dans une précarité totale. Il n'y a aucun organe de presse qui peut aujourd'hui se prévaloir être en mesure de mieux payer les journalistes, si ce n'est peut-être la radio Okapi. Et tous les organes de presse qui restent, la situation est très difficile. Ils n'arrivent pas à réunir suffisamment de moyens parce que vous savez que la ressource principale d'un organe de presse, c'est la publicité. Et à ce niveau, non seulement qu'il n'y a pas assez de publicité ou de maisons qui peuvent faire de publicité ou de produits dans ce pays, mais c'est l'annonceur qui donne le montant qu'il veut payer à un organe de presse et on vous dit à prendre ou à laisser. Et lorsqu'il y a maintenant beaucoup d'organes de presse, il est difficile que la masse réservée à la publicité par une entreprise quelconque puisse être répartie à travers tous les organes de presse. Conséquence, les maisons de presse n'ont pas suffisamment de moyens et les journalistes ne sont pas bien payés. Et en plus, il y a une loi, la loi 96-002, qui est la suite de la loi 011 du 2 avril 1981. Cette loi donne les aides directes et indirectes à la presse et même certains avantages et impose même la défiscalisation ou la taxation des organes de presse. Mais il s'est fait malheureusement qu'à ce jour, alors qu'il était prévu que dans les mesures d'application, les ministres concernés par cette loi puissent signer des arrêtés interministériels d'application de cette loi, jusqu'à présent, ces arrêtés ne sont pas encore signés. Ce qui fait que fondamentalement, la situation des journalistes congolais reste précaire parce que les organes qu'ils emploient ne sont pas en mesure de les payer convenablement.
Et c'est dans ce même cadre qu'il y a des journalistes qui travaillent sans contrat, des journalistes qui n'ont pratiquement pas de valeur devant les employeurs.
Évidemment, parce qu'aujourd'hui là, la plupart des journalistes travaillent sans contrat, tout simplement parce que les organes de presse estiment que s'ils signent un contrat avec un journaliste et qu'il n'est plus en mesure de le payer, ce journaliste est capable d'aller porter plainte contre cet organe de presse. Et à ce moment-là, on peut fermer cet organe parce qu'il n'arrive pas à payer ses salariés. Et qu'est-ce qui se fait actuellement dans la plupart des organes de presse? Quand on envoie un journaliste un reportage, on attend qu'il ramène un produit quelconque de ce reportage pour aider la presse, l'organe de presse, à bien vouloir fonctionner. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans notre presse.
Alors, vous avez évoqué le fait que la loi 96-002, qui est la suite de la loi 011 du 12 avril 81, qui prévoit des aides directes et indirectes à la presse, n'est pas appliquée. Cette émission est également pédagogique, Joseph Boukar Kasonga-Chilundé. Qu'est-ce qu'elle pourrait changer, cette loi, si elle était appliquée?
Mais ce qui pourrait changer, c'est que, prenez par exemple, aujourd'hui, une caméra ou un laptop, c'est considéré comme étant un article de luxe. Aujourd'hui, quand vous prenez un laptop, il vous coûte dans les plus de 1 500 $. Quel est ce journaliste qui est capable de se procurer un laptop? Il n'y en a pas. Vous avez une caméra pour une maison de presse. Quand elle arrive à la douane, elle est taxée à un taux plus élevé. Conséquence, regardez toutes ces télévisions que nous avons dans la ville de Kinshasa ici particulièrement. Et voyez les types, quel type de caméra les journalistes ou les caméramans sont en train de filmer. Mais c'est une honte. C'est une honte parce qu'ils ne sont pas capables de s'acheter des caméras professionnelles. Alors que si on défiscalisait, si on détaxait, il était plus simple et plus facile que ces organes de presse puissent s'acheter du matériel convenable pour faire le travail, un travail professionnel. Donc, si on le fait, si on applique ces mesures, l'avantage sera énorme pour le journaliste. Prenez par exemple aujourd'hui, pour voyager, arriver à Kananga ou à Lubumbashi, mais il y a beaucoup de taxes qu'impose la CAA ou la RVA. Mais si on est taxé, il est plus facile de voyager à moindre coût qu'aujourd'hui. Quand vous quittez ici pour arriver à Kindu, vous payez plus de 850-900 $, voire 1000.
Merci.
Alors que c'est le montant qui vous permet d'arriver en Europe.
Merci Joseph Boukar Kasonga-Chilundé. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Chivis Chivoadi, vous êtes secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GED. Comment avez-vous accueilli l'organisation de ce congrès de l'UNPC?
Bien, je voudrais d'abord saluer et féliciter chaleureusement mon ami Joseph Boukar Kasonga-Chilundé pour sa brillante élection à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Lui, il sait que lui et moi, nous avons souvent passé, et nous passons beaucoup de temps à parler, à échanger sur la situation préoccupante de la presse au Congo. J'espère sincèrement que ce nouveau comité apportera un souffle nouveau à l'Union pour que ensemble, j'insiste beaucoup, ensemble, nous puissions affronter et relever les défis qui se posent aujourd'hui à la profession. Car ces défis sont tellement nombreux que je pense que l'UNPC seul ne peut pas les relever. C'est pourquoi, et il le sait, depuis un certain temps, nous avons ensemble mis sur pied une dynamique que nous appelons la dynamique du 27 mai, qui regroupe pratiquement toutes les organisations professionnelles du média, avec le CESAT et avec plusieurs autres personnalités et experts du monde médiatique, dont le professeur Malien qui participe à cette mission. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions mener ensemble un plaidoyer d'ensemble pour faire de la presse et des médias congolais un véritable quatrième pouvoir qui doit être dans une démocratie. Et c'est pour cela que je dis, nous pouvons faire ce travail-là ensemble parce que les défis sont très nombreux et que donc, pour permettre à nos médias d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent effectivement être encadrés. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, que parmi ces défis, il y a effectivement la question de l'assainissement de la profession, il y a le problème de la viabilité économique des entreprises de presse, et puis, en filigrane, la question de la sécurité juridique des journalistes qui passe forcément par la dépénalisation des délits de presse qui est effectivement notre cheval de bataille aujourd'hui ensemble avec toutes les autres organisations professionnelles.
Alors, parce que vous abordez la question de la dépénalisation des délits de presse qui vise Tivoadi, comme je le disais, cette émission est également pédagogique pour les auditeurs qui nous suivent. Qu'est-ce que ça veut dire et quel pourrait être l'avantage de cet aspect?
Bien, en deux mots très simples, la dépénalisation pour nous signifie tout simplement que les délits de presse, c'est-à-dire les infractions que des journalistes peuvent commettre en faisant leur travail, puissent être sanctionnés autrement que par des peines de privatives des libertés. C'est un problème c'est une exigence de la démocratie, mais c'est aussi une exigence pour permettre aux journalistes de pouvoir faire leur travail en toute liberté, en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'infraction pour laquelle beaucoup de journalistes sont souvent poursuivis, c'est l'infraction de diffamation ou communément appelée imputation dommageable. Dans notre législation aujourd'hui, le journaliste qui, après avoir fait des enquêtes, arrive à découvrir que tel responsable a détourné de l'argent public, et même s'il a des preuves de ce détournement, une fois qu'il est poursuivi, une fois qu'il a donné ses informations, une fois qu'il a dénoncé ce détournement de fonds et qu'il est poursuivi en justice, le magistrat qui instruit ou le juge qui instruit ce dossier ne se préoccupe pas de savoir si l'information donnée par le journaliste est vraie ou fausse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'honneur de la personne qui estime avoir été lésée. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas attendre des journalistes qui puissent effectivement aider le gouvernement dans sa quête d'instaurer des méthodes de bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance signifie la lutte contre la corruption, ça signifie la transparence dans la gestion. Et dans ces conditions, les journalistes devraient être le meilleur partenaire du gouvernement dans cette lutte. Or, ils ne peuvent pas le faire si aujourd'hui ils ont peur, si aujourd'hui ils savent qu'en donnant des informations, en dénonçant des cas avérés de corruption, ils peuvent être envoyés en prison. Donc nous disons, donc c'est un obstacle. C'est un pesanteur important qui empêche les journalistes de pouvoir faire leur travail et nous saluons le fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique exprimée aussi bien par le Premier ministre et par le ministre des Médias, nous l'avons suivi, qui veut aller dans le sens justement de cette dépénalisation de l'édit de presse. Nous espérons tout simplement maintenant qu'il faut accélérer le processus législatif pour qu'effectivement, on y arrive effectivement par l'adoption ou le vote d'une loi qui dépénalise effectivement des délits de presse tels que la diffamation, tels que la diffusion des fausses informations ou tel que ce que communément on appelle parfois l'offense aux autorités.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, Sylvie Sivoadi, pour que, en dépénalisant les délits des presses, on ne tombe pas dans le libertinage pratiquement? C'est ce qu'a aussi dit le ministre Mende. Pour reprendre ces termes, il dit que cela ne doit pas constituer une immunité pour des journalistes qui devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. À quel niveau se situerait la limite?
Mais écoutez, je voudrais préciser des choses. Je pense qu'il y a parfois de malentendus par rapport à cette question de la dépénalisation des délits de presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dépénalisation des délits de presse que nous cherchons ne doit pas être considérée comme un cadeau de presse et encore moins une faveur qu'on accorde aux journalistes. Bien au contraire, et je pense que cette problématique de la dépénalisation doit être placée et comprise dans, comme je l'ai dit, dans un contexte global d'un pays qui se démocratise et qui veut instaurer des méthodes de gouvernance. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement a besoin des médias pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à lutter contre la corruption, à pouvoir renforcer, n'est-ce pas, la démocratie dans notre pays. Donc, c'est un service, donc, en dépénalisant, le gouvernement se rend service parce qu'à ce moment-là, il peut bénéficier, n'est-ce pas, de l'apport des médias. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la dépénalisation ne signifie pas que le délit cesse d'exister. La dépénalisation ne signifie pas impunité, régime d'impunité pour les journalistes. Mais c'est seulement pour dire que l'infraction des délits de presse, une fois qu'il est établi en termes de diffamation ou réputation dommageable, peut être sanctionné ou doit être sanctionné autrement qu'en envoyant un journaliste en prison. Et donc, on peut sanctionner le journaliste, notamment en faisant des dommages d'intérêt ou de payer des amendes, mais jamais on ne peut envoyer un journaliste en prison parce qu'il a écrit, parce qu'il a dit, mais si ce qu'il a dit écrit est faux. Donc, c'est un problème de principe, c'est un problème de logique d'ailleurs, parce que.
Merci Kivis, on a compris, je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Malembe Tamandiak, vous êtes initiateur, recteur honoraire et docteur honoris causa de l'IFASIC, également professeur émérite de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Professeur, à votre tour également, comment vous avez analysé la tenue, l'organisation de ce congrès de l'UNPC?
S'il vous plaît.
Professeur, vous nous suivez?
Oui.
Voilà, je posais la question de savoir comment vous avez accueilli l'organisation de ce 8e congrès de l'UNPC.
Oui, j'ai été très très heureux de la convocation de cette réunion, conformément au statut, parce que ça fait déjà 2 ans de retard que ce congrès aurait dû, n'est-ce pas, être convoqué. Et donc j'étais heureux, n'est-ce pas, de participer à ce 8e congrès qui avait beaucoup de problèmes à régler. Voilà donc.
Ouais. Mais professeur, on a évoqué tout à l'heure parmi les problèmes qui minent la presse congolaise, la non-application de la loi 96-002 qui fait suite à la loi 011 du 12 avril 91 qui n'est pas appliquée. De votre point de vue, pourquoi cette loi n'est pas mise en œuvre?
Ce n'est pas seulement la loi numéro 96 du 22 juin 1996. Il y a aussi une autre loi qui est très fondamentale et qui règle, n'est-ce pas, la profession dans notre pays. C'est la loi numéro 12, l'ordonnance loi numéro 12 du 2 avril 1981. C'est une loi qui est très, très importante, qui doit permettre de régler un certain nombre de problèmes dans notre pays. Bon, il est évident que l'application de ces deux lois a des conséquences très, très importante sur la vie de la profession, sur la vie des entreprises de presse et sur les relations qui doivent exister entre les entreprises de presse et le gouvernement d'une part, entre, n'est-ce pas, le gouvernement et la profession d'autre part. Et ces lois n'ont jamais été appliquées et c'est fort regrettable. Mais je pense qu'avec ces congrès, chacun, n'est-ce pas, de responsable, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises de presse, n'est-ce pas, est conscient qu'on puisse appliquer ces dispositions légales pour assainir le milieu professionnel, pour que la profession puisse s'exercer correctement et dans l'intérêt, n'est-ce pas, du bien commun.
Alors, professeur, que faut-il? On parle à plusieurs reprises des moutons noirs qu'il y a dans la profession. De votre point de vue, que faut-il pour assainir la presse en RDC?
Oui, on parle beaucoup de moutons noirs. On parle beaucoup de l'assainissement. C'est précisément parce que aucune disposition de ces deux lois n'est appliquée. Par exemple, pour entrer dans la profession, pour devenir journaliste, il y a des dispositions qui sont prévues dans l'ordonnance loi numéro 12. Ce n'est pas n'importe qui accède à la profession. Et dès que vous réunissez les conditions qui sont prévues dans le statut, à savoir avoir terminé au moins les études secondaires, et après les études secondaires, effectuer soit 12 mois de stage, soit 24 mois de stage, eh bien, une fois partie de ces dispositions, la première condition de l'assainissement est déjà, n'est-ce pas, réalisée. Et d'autre part, il y a le problème de contrat. Les entreprises de test, n'est-ce pas, ne recrutent pas d'abord leurs agents qui passent, n'est-ce pas, de concours ou d'examen ou d'un test. Et d'autre part, les entreprises de presse, la plupart ne signent pas de contrat avec, n'est-ce pas, les jeunes gens qui sont recrutés. Elles ne les font pas parce que financièrement, elles sont incapables de payer les minimums exigés, n'est-ce pas, par la loi à ceux qui aux journalistes qu'elles recrutent. Donc, la première condition de l'assainissement, n'est-ce pas, de l'espace médiatique congolais, c'est d'abord de respecter les conditions de recrutement. D'autre part, de signer un contrat. Et la troisième condition, il faut que la profession elle-même s'organise pour veiller à ce que les entreprises de presse qui recrutent les journalistes, respectent les conditions qui sont posées par la loi.
Alors, Oui. Allez-y, professeur, je vous en prie, terminez votre idée.
Oui. Il y a une autre condition, la création des entreprises de presse. La création des entreprises de presse n'est pas tout à fait réglementée. N'importe qui peut créer son entreprise de presse, soit dans le secteur de l'audiovisuel, soit dans le secteur, n'est-ce pas, graphique. N'importe qui. C'est très, très dangereux. Il faut renforcer les conditions de création des entreprises.
Professeur?
Il faut renforcer les exigences en matière de recrutement, en matière de création d'une entreprise de presse. Actuellement, c'est tout à fait libéral. N'importe qui peut créer une entreprise de presse. Et ce qui explique que nous avons, dans l'espace médiatique congolais, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout dignes de porter ces titres, n'est-ce pas, d'entreprise de presse.
Professeur.
Oui.
Comment expliquez-vous que la presse qui est dite le quatrième pouvoir soit incapable en RDC de faire appliquer des lois qui la concernent?
Et parce que cette presse n'a pas de moyens. Ce n'est pas une presse digne de ce nom. En réalité, nous n'avons pas dans notre pays de presse. Une entreprise originale qui a 500 exemplaires et n'en vend que 100 ou 200, ce n'est pas une entreprise de presse, n'est-ce pas, fiable. Donc, les entreprises de presse ne réunissent pas les conditions d'une véritable entreprise de presse.
Merci. Merci, professeur. Joseph Moukar Kasonga Chilunde, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Emmanuel Nirwe de Bukavu au sud Kivu. Certains organes de la presse congolaise sont comme un caillou dans la chaussure des journalistes congolais. Alors que l'Union nationale de la presse congolaise change des équipes en équipes avec telle ou telle autre mission, certains de ses membres continuent à rester au service de certains politiciens en massacrant toute la déontologie journalistique. De l'autre côté, la presse étant devenue une chambre libre où tout le monde peut entrer, l'UNPC manque de stratégie pour assainir son milieu. Je propose à l'Union nationale de la presse congolaise de songer un jour à l'ordre national des gens de la presse pour barrer la route à tous les charlatans qui décrédibilisent les métiers des journalistes congolais.
Réaction Joseph Moukar Kasonga Chilunde.
Mais notre ami de Bukavu ne dit pas le contraire de ce que nous disons tous les jours. Vous savez que au niveau de notre pays, la plupart des organes de presse écrits ou audiovisuels sont tenus par les politiciens. Et par conséquent, ces politiciens imposent leur ligne dans ces médias. Et parfois, ces politiciens instrumentalisent les journalistes qui travaillent chez eux pour régler des comptes à leurs ennemis ou leurs adversaires politiques. Ça pose un problème. Ces entreprises de presse qui n'ont pas suffisamment de moyens parce que généralement, et ces hommes politiques qui créent des entreprises de presse, généralement, c'est quand ils sont au pouvoir. Et dès qu'ils quittent le pouvoir, ces entreprises ferment ou alors on lâche les journalistes qui ont travaillé dans ces entreprises de presse pour devenir des mendiants et créer ainsi le phénomène mouton noir. En ce qui concerne l'ordre, nous avons évoqué ça avec notre ministre de tutelle. Au Congrès, nous avons essayé de changer ça. Mais moi, je me dis que nous sommes déjà presque en ordre, d'autant plus que l'UNPC est une ASBL dotée de sa personnalité juridique. Mais l'UNPC a reçu un mandat légal de délivrer la carte de presse à quiconque œuvre dans ce secteur. Et ce mandat légal qu'il faut respecter provient d'une loi 012 du 2 avril 1981. De sorte que toute personne qui travaille aujourd'hui ou qui se dit journaliste dans ce pays et qui ne dispose pas de cette carte est un hors-la-loi. Et lorsque vous êtes hors-la-loi, vous devez être mis devant les tribunaux parce que vous usurpez la qualité de journaliste.
Alors, donc, oui. Peut-on affirmer Joseph Boukar Kassonga-Chilundé comme Emmanuel Niwe que jusqu'à présent l'UNPC a manqué des stratégies pour assainir la profession?
Non, ça veut dire que l'assainissement de la profession ne dépend pas que de l'UNPC. Imaginez-vous par exemple, lorsque vous attrapez un journaliste qui est accusé par exemple devant le tribunal. Et on lui demande quel est votre, vous êtes journaliste, prouvez que vous avez la qualité, vous êtes journaliste. Et ce journaliste n'est pas capable de le prouver parce qu'il ne dispose pas d'une carte officielle de presse. Logiquement, cela devait constituer une autre infraction sur celle pour laquelle il est déféré devant les tribunaux. Mais, à ce niveau-là, ça ne se fait pas. Donc, ce qui veut dire que, pour que les actions que l'UNPC mène puissent réussir, il faudra qu'il y ait une symbiose entre l'UNPC d'une part, les autorités de la République d'autre part, et surtout, je dis bien surtout, la justice. Prenez aujourd'hui le phénomène vente des articles en photocopie. Est interdit par la loi, ce phénomène-là. Mais vous pouvez aller aujourd'hui vous accuser ces jeunes gens devant la police, mais il ne faut rien. Et la police vous dit même que non, c'est grâce à ça qu'ils vivent. Mais ils vivent sur le dos de nous qui faisons le journal. Imaginez-vous, on fait le journal de François Malène, vous a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journaux qui tirent à plus de 1000 exemplaires. Mais vous tirez, par exemple, à 500 exemplaires. Et vous n'êtes pas capable de vendre 50 exemplaires. Tout simplement parce que les petits revendeurs, ils ont choisi les articles qui intéressent, ils ont tiré des photocopies, ils ont vendu pour leur propre intérêt. Conséquence, les organes de presse ne peuvent pas avoir de moyens. Donc, c'est pour cette raison que nous pensons que la guerre contre les moutons noirs, la guerre contre les photocopies, l'assainissement de la profession ne peut pas être l'œuvre de la seule UNPC, mais il faudra que l'UNPC, avec tous les autres partenaires, le gouvernement, la police, l'armée, nous puissions conjuguer nos efforts pour mener ce combat. Et je pense que si tel est le cas, le combat sera réussi.
Alors en un mot, Joseph Boukar Kassonga-Chilundé, il y a également des gens qui détiennent cette carte de presse sans réellement exercer la profession.
Jusqu'à preuve du contraire, depuis que nous sommes là, depuis qu'on délivre cette carte, à l'époque oui. À l'époque parce qu'il y avait un mécanisme tel qu'il était difficile de contrôler la délivrance de cartes de presse. Depuis un temps, on a freiné cet élan-là parce que personne ne peut, par l'Internet ou par, comment on appelle les ordinateurs, imprimer une carte de presse. Et avec mon comité qui vient d'être élu, nous allons réfléchir autour de ce problème, ce dossier qui est crucial aussi, pour que nous puissions mettre sur pied les mécanismes qui empêchent que cette carte sorte en dehors de ceux qui ont le droit de l'avoir.
Merci, Joseph Boukar Kassonga-Chilundé. Tivis Chivwadi, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au Sud Kivu.
Je suis Franklin Matumaini de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le nouveau comité de l'UNPC a vraiment dit sur la planche. car aujourd'hui la conception et la mission originaire de la presse ont été déviées par certains acteurs dans la mesure où la plupart des maisons de presse sont créées par les acteurs politiques qui arrivent même à imposer la ligne éditoriale, ce qui fait qu'on est déformé, former et divertir la population, les organes de la presse sont transformés en des machines de propagande et de publicité à leur fondateur. D'où le premier problème auquel ce comité doit faire face, car il ne sera pas facile de rappeler à l'ordre ces organes qui parfois ont une force que l'UNPC. Ensuite, le manque de professionnalisme où nombreux organes de presse n'ont plus aucun respect à l'éthique et déontologie journalistique. D'où le premier défi pour les comités en train de former et ou capaciter de nombreux journalistes du pays.
Tuvis Tshivwadi, est-il possible en RDC de mettre fin à ce rapport incestueux entre les politiciens et la presse?
Bien, écoutez, nous avons une loi qui est assez libérale à ce sujet, et je pense que c'est une bonne chose qui permet, qui autorise à tout celui qui a envie d'investir dans le secteur de pouvoir le faire, et donc aux hommes politiques de pouvoir le faire aussi. Mais le fait pour un opérateur politique de financer ou de créer un média ne lui donne pas le droit de pouvoir devenir le rédacteur en chef de ce média.
Malheureusement, c'est ce qu'on observe.
Pour ceux qui ne sont pas effectivement journalistes, il est obligatoire, il leur est obligé de pouvoir prendre des directeurs de publication, de tous les programmes qui soient de véritables professionnels des médias. Donc je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau, c'est un problème de responsabilité, et c'est pour cela qu'il existe justement des structures de régulation, dont le CESAC et d'autorégulation, pour pouvoir justement veiller à ce que ces dispositions soient tout à fait respectées. Mais je pense que la responsabilité qui nous incombe en tant qu'organisation pour pouvoir faire face à tous les problèmes qui se posent, hein, comme de mouton noir, le problème des interférences politiques dans le travail des journalistes, le problème des arrestations, des menaces contre les journalistes. Je crois que notre responsabilité en tant qu'organisation, c'est de pouvoir créer un cadre ou des conditions qui permettent justement aux journalistes et aux médias de pouvoir faire leur travail en toute liberté, en toute indépendance et avec beaucoup de professionnalisme. Et comme on a rappelé tout à l'heure, ces conditions et ces défis, comme on dit, se concernent notamment pour le problème de la sécurité physique et même juridique des journalistes. Là, on a parlé de la dépénalisation. Et quand on parle du problème de la viabilisation des médias sur le plan économique, je pense que, comme a dit le professeur, il existe une loi, la loi de 96, qui fixe les modalités, mais qui n'a pas de texte d'application qui permette justement à faire en sorte qu'on puisse trouver le moyen de renforcer les médias. Je prends simplement un ou deux exemples. Aujourd'hui, je pense qu'au travers de cette loi, parce que nous sommes en train de faire un plaidoyer global pour la révisitation de cette loi, nous devons arriver à faire en sorte que on puisse effectivement réglementer la question de la publicité. Il y a aujourd'hui, si vous regardez bien, vous suivez nos médias aussi bien audiovisuels que la presse écrite, 90% des informations qui sont diffusées sont en fait de la publicité et de la promotion des institutions, des hommes politiques ou des organisations. Mais cette publicité n'est pas payée du tout. Et donc je pense qu'il faut réglementer pour que cet argent, c'est beaucoup d'argent qui échappe justement aux médias, puisse effectivement être reversé aux médias. Il faut mettre en place la messagerie de presse qui va permettre à ce que des médias congolais, la presse écrite qui est produite ici à Kinshasa puisse être distribuée et envoyée en province. Aujourd'hui, comme on a dit, aucun média ne tire à plus de 1000 exemplaires et vous avez 70% des invendus, alors qu'on peut arriver à un tirage même de 50 000 exemplaires par journal si on arrive effectivement à organiser une messagerie, une messagerie qui va faire en sorte qu'on puisse envoyer beaucoup de journaux en province, dans les administrations, dans les institutions pour que effectivement le pays puisse être couvert. Et vous avez, comme on a dit, dans cette loi où on parle des aides à la presse, mais cette aide à la presse n'est pas jusque-là obligatoire pour le gouvernement. On dit l'État peut octroyer des aides. Et là, je pense que dans la modification, il faut rendre cette possibilité obligatoire à l'État pour qu'il puisse effectivement donner ces aides directes et indirectes aux médias qui peuvent leur permettre effectivement de faire face aux difficultés financières auxquelles ils sont confrontés et être en mesure de mettre des journalistes qu'ils utilisent à l'abri de plusieurs sollicitations.
Professeur Malembe, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Funguru Meo Katanga.
Gauthier Mousseka, depuis Fungurume au Katanga. Découvrir les faiblesses de la presse congolaise n'est qu'un pas à la réussite du mandat du nouveau comité. Mais pour être plus réaliste, ce nouveau comité devra organiser des états généraux dont les résultats porteraient sur une prise de conscience générale, à la compréhension de la mission qui est celle d'informer la population en toute objectivité, en évitant les marchandages et les partis pris. S'unir pour faire front commun contre ces preneurs d'otages qui ne sont autres que les politiques, les hommes d'affaires puissants, les propriétaires des chaînes. C'est seulement à ce prix que l'on pourra parler de la presse au pays. Au cas contraire, ça sera comme toujours un club d'amis faisant des relais à la télé et à la radio.
Réaction professeur Malembe.
Bon, puis excusez-moi, ça passe très très difficilement. J'ai un appareil qui est complètement foutu, alors ça c'est très difficile. Mais je voudrais d'abord revenir sur la notion d'ordre. Beaucoup de gens se présentent. Nous devons être transformés en ordre des journalistes. Je voudrais vous signaler que partout dans le monde, les débats entre simples associations et ordre, n'est-ce pas, n'a jamais abouti. Les journalistes ne sont pas d'accord à mettre sur pied un ordre. Pourquoi? Parce qu'un ordre a des exigences très très strictes concernant d'abord la formation. Les gens qui entrent dans un ordre ont fait les mêmes études. Par exemple, ce sont les médecins qui ont fait la médecine. Ce sont les avocats qui ont fait le droit, ce sont les architectes. Donc, les gens ont le même profil. Tandis que le liste, la profession journalistique, les gens qui entrent dans la profession journalistique, qui exercent ce métier, ont divers profils. Ce sont des gens qui ont fait des études primaires, qui ont fait des études secondaires, qui ont fait des études universitaires dans leur diversité, et qui ne sont pas soumis à la même discipline scientifique. Et donc, on ne peut pas envisager de mettre sur pied un ordre de journalisme dans notre pays. Mais le fonctionnement de l'Union, tel que nous l'avions conçu en 1980, et qui a été sanctionné par l'ordonnance-loi du 12 avril, pardon, l'ordonnance-loi numéro 12 avril 1981, a pris à recopier certaines, beaucoup d'exigences d'un ordre. Par exemple, la dimension stage. Chez les médecins, chez les avocats, il y a des stages qui sont prévus avant de porter le titre de médecin, avant de porter le titre d'avocat. Eh bien, chez nous, il y a 12 mois de stage pour ceux qui ont fait les études de communication. Il y a 24 mois de stage pour ceux qui viennent d'autres disciplines. Alors, nous avons en plus de ça une carte de presse. C'est la carte de presse qui identifie le journaliste exerçant dans notre pays. Et cette carte de presse est distribuée, le pouvoir de distribution, la compétence, revient à l'Union nationale de la presse du Congo. C'est exactement comme dans l'ordre des médecins, c'est exactement comme chez les avocats. Donc nous n'avons pas besoin d'appeler notre Union ordre, n'est-ce pas, des journalistes. Ça ne sert absolument à rien.
Professeur,
oui.
Professeur, il y a Clivis Chivoadi qui a évoqué tout à l'heure le problème de la sécurité du journaliste. Faudrait-il légiférer à cet effet?
Oui, mais la sécurité des journalistes, ce n'est pas...
Professeur? Désolé. Professeur, si vous m'entendez, si vous pouvez bouger un tout petit peu, parce que là, on ne vous capte plus. Voilà, je crois qu'on vient de perdre le professeur Malembe. La réalisation va tenter de le retrouver. Joseph Boukar Kasonga-Chilunde avoue également la même question. Il se pose le problème de la sécurité du journaliste. Reste un problème épineux.
Moi, j'ai toujours dit que, et j'ai toujours cru, et je suis convaincu, que la sécurité du journaliste, c'est avant tout le journaliste lui-même. Lorsque le journaliste analyse ses articles, lorsque le journaliste se conforme scrupuleusement au code de déontologie, je ne vois pas comment il peut être mis en insécurité. Mais la plupart des journalistes qui sont en insécurité, quand vous remarquez très bien au fond des choses, c'est des amis qui ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie. Lorsque vous vous attaquez à la vie privée des individus. Lorsque vous jetez des gens en pâture, vous croyez que c'est vous le tout-puissant. Mais à partir de ce moment-là, il est plus facile que vous puissiez être mis en insécurité. Et moi, je me dis que j'appelle toujours, tous les jours, nos confrères, nos consoeurs à respecter les règles d'éthique et de déontologie. Et dès lors, ils ne peuvent pas être mis en insécurité.
Voilà, je crois qu'on peut déjà tendre vers la conclusion avec vous, Joseph Boukar Kasonga Chilonde. L'émission est en train d'aller petit à petit vers sa fin. Qu'est-ce que les journalistes qui vous suivent en ce moment à travers la République peuvent attendre de votre comité en guise de conclusion?
C'est-à-dire que les journalistes qui nous suivent doivent attendre de notre comité ceci. Désormais, nous entamons une guerre sans merci contre tous les moutons noirs, contre tous ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Nous allons nous battre pour que les organes de presse soient économiquement viables. C'est notre premier combat. Et lorsque les organes sont économiquement viables, par voie d'entraînement, les journalistes seront mieux payés.
Merci.
Parce que les organes de presse seront en mesure d'engranger beaucoup de moyens pour les payer.
Merci.
Et à ce niveau, nous pensons aussi que les organes foisonnent. Chaque citoyen qui a la chance d'être nommé quelque part à une poste de responsabilité, il estime que la meilleure manière de s'imposer, c'est d'avoir son organe de presse.
Merci Boukar Kasonga Chilonde. Tivis Tivwadi, la sécurité du journaliste, c'est d'abord lui-même.
Ben, je suis tout à fait d'accord qu'en respectant son code d'éthique et de déontologie, le journaliste se met en sécurité pour plus ou moins 60%. Mais je ne partage pas l'avis qui voudrait que, puisque le journaliste n'a pas respecté son code d'éthique et de déontologie, qu'on puisse le tuer ou qu'on puisse le jeter en prison sans aucune procédure. Je crois que ce problème de l'insécurité des journalistes dans notre pays, c'est la conséquence de l'impunité dont jouissent les personnes qui se permettent à s'attaquer à des journalistes et des médias qui n'ont jamais été inquiétés pour cela. Et donc je crois que tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la profession, c'est de faire en sorte que nos médias puissent retrouver leur place dans la société, qu'ils puissent peser sur la scène politique et être en mesure de jouer ce rôle très important de cacher un pouvoir ou de contre-pouvoir qui doivent être dans une démocratie. Et je le dis, ils ne peuvent le jouer correctement que si effectivement on arrive à mettre fin à l'impunité des prédateurs, de ceux qui s'attaquent, qui violent la liberté de la presse, et que si on arrive à faire une réglementation qui justement permet aux médias d'engranger des moyens dont ils ont besoin, au travers notamment de la publicité, de la messagerie des presses ou des aides directes et indirectes.
Merci.
Et si on arrive effectivement, parce qu'on a trop beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de la question de l'assainissement de la profession, il faut effectivement renforcer le mécanisme de régulation.
Merci Tivis. Professeur Malembe, en guise de conclusion, on parlait tout à l'heure de la sécurité physique du journaliste. Quel est votre point de vue?
Oui, je crois qu'en ce qui concerne la sécurité, n'est-ce pas, du journaliste, il y a d'abord des problèmes de recrutement. Ça doit commencer par là. Et il faut que les entreprises de presse respectent les conditions de recrutement des journalistes. Ce n'est pas n'importe qui doit accéder à la profession. Deuxièmement, il faut que l'organe qui reconnaît la qualité des journalistes respecte aussi certaines normes et contrôle, n'est-ce pas, le recrutement de journalistes au niveau des entreprises, n'est-ce pas, de presse.
Merci
pour le droit de garde.
Merci, professeur.
Troisièmement, le respect strict des conditions des règles éthiques et déontologiques.
Merci, professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Supervision Pélé Kipela, Mondo, réalisation Guimaté, équipe rédactionnelle Kelin Kouté, Samuel Kachak, technique Willem Lungamba, coordination et présentation Alain Rung Mouchige. Merci de votre attention.